Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Après avoir écouté les explications de Juan Diego, la Sainte Vierge répond « Écoute, mon petit enfant, ce que je te dis maintenant. Et comprends bien, ce qui t'effraie ou t'afflige, ce n'est rien. Que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur de cette maladie, ni d'aucune autre maladie, ni de rien de douloureux ou d'affligeant. Ne suis-je pas ici, moi, qui suis ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre et ma protection? Ne suis-je pas la source de ta joie? N'es-tu pas dans le creux de mon manteau, dans le creux de mes bras? As-tu besoin d'autre chose? Ne sois pas affligé ni troublé par quoi que ce soit. Ne te tourmente pas pour la maladie de ton oncle. Il ne mourra pas de cette maladie. Et sois certain qu'il va bien maintenant. » Et d'après ce qu'ils se sont racontés, l'oncle et le neveu, eh bien, c'est à ce moment-là que l'oncle est guéri. Quand Juan Diego entend ces mots de la Dame du Ciel, il est grandement consolé et son cœur pacifié. Il la supplie de l'envoyer voir l'évêque pour lui apporter un signe, une preuve, afin qu'il croie. La Dame du Ciel lui demande de grimper sur la colline où ils s'étaient précédemment rencontrés. Elle lui dit « Mon tout petit enfant, monte au sommet de la colline où tu m'as vu et où je t'ai donné mes instructions. Tu verras différentes fleurs. Coupe-les, réunis-les, rassemble-les, puis redescends et apporte-les ici, en ma présence. » Juan Diego se met aussitôt à grimper la colline. Arrivé au sommet, il est stupéfait de trouver une telle variété de fleurs épanouies, aux corolles ouvertes, belles et précieuses, des roses de Castille. Elles sont en fleurs, en plein mois de décembre, bien avant la saison où elles doivent bourgeonner. Car en cette saison, il y a des gelées fréquentes. Elles émettent un parfum très suave et sont recouvertes de gouttes de rosée nocturne qui ressemblent à des pierres précieuses. Ajustant son manteau ou son tilma à la manière des indigènes, Juan Diego commence aussitôt à cueillir des fleurs, à les rassembler et à les déposer dans le creux de son tilma, autant que celui-ci peut en contenir. Ce n'est pas une place où peuvent pousser des fleurs, encore moins des roses que cet endroit. Ce ne sont que des rochers en ce lieu, des ronces, des épines. Occasionnellement, de l'herbe y pousse, mais au mois de décembre, le gel détruit et brûle tout. Juan Diego redescend la colline et porte les fleurs à la Dame du Ciel. La Dame les prend dans ses vénérables mains et les remet toutes ensemble dans le tilma de l'Indien en disant « Ô toi, le moindre de mes fils, toutes ces fleurs sont la preuve et le signe que tu porteras à l'évêque. Tu lui diras de ma part qu'il y voit mon désir et qu'il est bon qu'il accomplisse ma demande. Tu es mon messager, en toi je mets toute ma confiance. Je te demande instamment de ne montrer à personne ce que tu portes, et de n'ouvrir ton manteau qu'en présence de l'évêque. Tu lui raconteras bientôt. Tu lui diras que je t'ai demandé de grimper sur la colline pour y cueillir les fleurs, et aussi tout ce que tu as vu et admiré. Avec cela, tu le disposeras à construire le temple que je lui ai demandé. » Alors, tout heureux, Juan Diego prend directement le chemin qui mène à Mexico, portant avec grand soin les roses, sans en perdre aucune. Il les regarde de temps en temps, jouissant de leur parfum et de leur beauté. Il marche le cœur en paix, à la pensée que le succès de sa mission est assuré. Troisième visite chez l'évêque. C'est le mardi 12 décembre, il est 11h, quand Juan Diego arrive à la maison de l'évêque. Alors le concierge vient à sa rencontre, ainsi que d'autres serviteurs de l'évêque. Il recommence toujours la même chose. Il veut voir l'évêque. Alors Juan Diego attend de longues heures. Quand les serviteurs voient qu'il a patienté longtemps debout, sans rien faire, attendant d'être appelé, et paraissant avoir quelque chose dans son tilma, il s'approche de lui pour savoir ce qu'il porte. Juan Diego, voyant qu'il ne peut cacher son trésor et sachant qu'il sera molesté, bousculé, méprisé, ouvre un peu son tilma où se trouvent les fleurs. En apercevant cette variété de roses de Castille hors saison, les serviteurs sont complètement stupéfaits parce qu'elles paraissent si fraîches, en pleine floraison, si parfumées, si belles. Ils essaient par trois fois d'en prendre quelques-unes, mais sans y parvenir. À chaque fois qu'ils veulent les saisir, les fleurs ne paraissent plus réelles. On dirait qu'elles sont peintes ou tissées avec art sur le manteau. Les serviteurs s'empressent alors d'aller dire à l'évêque ce qu'ils ont vu, l'informant que Juan Diego, venu récemment à plusieurs reprises, est encore là. Il a sûrement une raison pour l'avoir attendu, avec anxiété, si longtemps, et pour être si désireux de le voir. En entendant cela, l'évêque comprend que Juan Diego apporte la preuve confirmant ses dires et qu'il devra répondre à la requête de l'Indien. Il demande de le faire entrer immédiatement. Juan Diego s'agenouille devant l'évêque, comme à l'accoutumée, et rapporte ce qu'il a vu et admiré, ainsi que le message. Il lui dit « Monseigneur, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je suis allé dire à Madame du Ciel, Sainte Marie, l'aimable Mère de Dieu, que vous avez demandé un signe et une preuve vous permettant de croire qu'il faut construire un temple là où elle l'a souhaité. Je lui ai dit aussi que je me suis engagé à vous rapporter un signe et une preuve de son désir, comme vous me l'avez demandé. Elle a bien écouté votre désir, votre parole, et elle a reçu avec plaisir votre demande d'un signe, d'une preuve, pour que se réalise et se vérifie son aimable désir. Tôt ce matin, elle m'a envoyé vous voir à nouveau. Je lui ai réclamé encore une fois le signe, afin que vous puissiez me croire. Elle m'a dit qu'elle me le donnerait. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a envoyé sur la colline, là où je l'avais vue auparavant, pour cueillir diverses roses de Castille. Après les avoir cueillies, je les ai portées. Elle les a prises dans ses mains et les a placées dans mon vêtement, afin que je vous les remette personnellement. Même si je savais que le haut de la colline n'était pas un endroit où pousseraient des fleurs, car il y a trop de rochers, d'épines, je n'ai jamais douté un instant. Je n'ai pas hésité. Quand je suis arrivé au sommet, j'ai vu que c'était un paradis. Il y avait là la perfection de toutes les variétés de fleurs les plus exquises, les plus belles qui puissent exister, couvertes de brillantes rosées splendides. Je les ai cueillies immédiatement. Elle m'a demandé de vous les porter de sa part. Je me suis exécuté, afin que vous puissiez voir en elle le signe que vous m'aviez demandé pour vous conformer à son vœu, et pour que mon message soit crédible. Les voici. Faites-moi la faveur de les recevoir. » Juan Diego déplie son blanc manteau où se trouvent les fleurs, et au moment où toutes les fleurs précieuses tombent à terre, le manteau se transforme en signe ici même, car tout à coup y apparaît l'image sacrée de la parfaite Vierge, Sainte Marie, Mère de Dieu, telle qu'on la voit aujourd'hui toujours et qui est conservée dans sa petite maison aimée, dans son temple sacré du Tepeyac et que l'on appelle Guadalupe. L'évêque est plongé dans l'admiration par le prodige des roses fraîches. Alors que c'est l'époque la plus rigoureuse de l'hiver en ce climat. Mais quand lui et ceux qui se trouvent là voient la sainte image, ils tombent tous à genoux et l'admirent profondément. Ils se relèvent pour la regarder. Ils sont saisis de tristesse et de chagrin, plein le cœur et l'esprit. L'évêque en larmes et plein de tristesse implore son pardon pour n'avoir pas accueilli aussitôt son vénérable message et réalisé son désir. Il dénoue à la nuque de l'Indien le nœud qui retient le manteau sur lequel elle apparaît et qui s'est transformé en signe de la Dame du Ciel. Et il le transporte à son oratoire. Ce jour-là, l'évêque retient Juan Diego dans sa maison. Eh bien, le lendemain matin, mercredi le 13 décembre, l'évêque lui demande de l'accompagner sur le lieu où la Dame du Ciel désire qu'on construise un temple en son honneur. Aussitôt, on invite des gens pour le construire. Juan Diego montre les endroits où, par quatre fois, il a vu la Dame du Ciel, qui lui a demandé d'édifier un petit temple en son honneur. Puis il demande la permission de retourner voir son oncle, Juan Bernardino, qu'il a laissé très malade, pour aller appeler un prêtre, afin qu'il puisse se confesser, se préparer, et qui, selon la Dame du Ciel, était déjà guéri. L'évêque la lui accorde et envoie quelques-uns de ses serviteurs avec lui. Quand ils arrivent, ils voient que l'oncle est guéri et n'a aucune douleur. Juan Bernardino est très stupéfait de voir son neveu, ainsi accompagné d'Espagnols qui l'honorent. Il demande la raison d'un tel changement d'attitude et d'un tel honneur à son égard. Juan Diego répond que lorsqu'il est parti chercher un prêtre pour le confesser et le préparer, la Dame du Ciel lui est apparue à Tepeyac. Elle lui a dit de ne pas être triste, que son oncle était rétabli, ce qui l'a consolé. Et elle l'a envoyé à Mexico voir l'évêque pour qu'il fasse construire un temple en son honneur à Tepeyac. Ayant connu le jour et l'heure où la Vierge a annoncé la guérison à Juan Diego, l'oncle affirme qu'à 7 heures même, mardi le 12 décembre vers 6 heures du matin, il a vu la même dame que son neveu l'a décrite. Elle lui a appris qu'elle a envoyé Juan Diego à Mexico voir l'évêque. Elle lui a dit aussi que lorsqu'il ira voir l'évêque, il devra lui révéler ce qu'il a vu et lui expliquer de quelle façon elle l'a guéri miraculeusement, et qu'il serait bien de donner ce nom et d'appeler ainsi son aimable image, la parfaite Vierge, Sainte Marie de Guadalupe. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les 7 marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. Le soleil était au zénith et le sommet de l'impossible était visible. Il était rare que la nuée se dissipât complètement à la cime. Petit-Jean l'admirait maintenant à plein regard. La montagne qui se découpait dans le ciel azur. Il se sentait si petit sur la montagne pointue qu'il en avait presque le vertige. La dame de la montagne, sortant du petit jardin, vint le rejoindre.
« Regarde, on voit le sommet aujourd'hui !»
Sans regarder, elle répondit « Je sais ».
J'ai vu. Quelque chose semblait la tracasser. Ton père, ta mère, ils savent que tu es ici ?
Jetant rapidement les yeux vers son petit village, il répondit.
Mon père ? Il m'a vu partir avec mon arc et mes flèches. Pour lui, je suis à la chasse. Il ne se préoccupe pas de moi.
On part longtemps à la chasse chez toi ?
Fit-elle avec un peu d'ironie.
Et ta mère ?
Ma mère, elle sait tout. Et à l'insu de tous. Elle doit souvent jeter les yeux vers l'impossible.
La dame de la montagne s'était mise aussi à regarder le village de Petit-Jean. Elle paraissait toujours tracassée, presque hésitante. Soudain, elle s'approcha de lui et dit « En mangeant le pain que tu as pétri, tu as franchi aujourd'hui une autre marche à l'escalier. Mais il en reste encore, mon garçon. Maintenant, tu vas redescendre chez toi. »
Il eut un mouvement de surprise, comme s'il avait mal entendu. « C'est déjà terminé ?»«
Non. Mais tu vas retourner dans ton village. » Et tu n'en reviendras que lorsque tous sauront ton désir de faire l'ascension de l'impossible.
Petit-Jean blêmit d'effroi. Il vit tout à coup toutes ses mains frapper sa tête pour la rabattre sur la terre, loin de l'impossible montagne. Il balbutia quelques mots, mais elle reprit fermement.
« Redescends, Petit-Jean. Tu trouveras la force. Il n'y a plus de pain pour toi ici. »
Il avait baissé la tête, défait par ce qu'il voyait déjà comme un échec. Qu'allait dire son père en le voyant rentrer sans arc, ni flèche, ni gibier ? Et sa mère, qui le croyait peut-être déjà au sommet ? Révéler son rêve à tout le monde ? Et pourquoi donc ? Il se sentait presque trahi. Pour la première fois, il trouva inhumain et dur ce que la dame de la montagne lui demandait.
La laissant ses poules, où elle était retournée, Petit-Jean dut prendre le chemin du village. La nuée s'était emparée une fois de plus du sommet de l'impossible.
Il bourdonnait toujours d'activité le petit village. Petit-Jean avait pris soin de rentrer durant la nuit. Dans la maison, il n'avait réveillé personne, ce qui l'avait sauvé d'une avalanche d'interrogations. Lorsqu'il s'éveilla, déjà son père avait pris le chemin du travail, tandis que sa mère, étonnée, se laissa tout raconter. Elle eut peur, cependant, lorsqu'elle apprit cette autre marche qu'il lui fallait monter. Comment les gens du village accepteraient-ils qu'un de leurs enfants défie ce qu'il défendait depuis toujours ? Elle n'était pas sans redouter la colère de son mari, soucieux de leur réputation. Petit-Jean la rassura, en disant qu'il trouverait le bon moment, mais qu'il ne savait pas du tout comment il allait faire cette déclaration à tout son petit village. Il sortit donc pour se promener sur la place publique. Les enfants couraient toujours et se faufilaient au milieu de la cohue, tandis que les femmes, les bras chargés, en profitaient quand même pour s'échanger nouvelles et potins. Quelques vieux fumaient leur pipe et improvisaient leur éternel refrain politique. Il eut l'idée d'aller au petit cimetière, où se trouvait le vieux Pépé Antoine. Avec respect, il se rendit là où on l'avait déposé en terre. Quelques herbes avaient poussé sur cette terre qui paraissait moins nue. Soudain, il se mit à parler au vieux Pépé, comme au temps où ils étaient près de la fontaine.
« Pépé Antoine, je ne sais plus quoi faire. Tu t'imagines ? Dire à tout le village que je veux gravir l'impossible ? Ils me chasseront ? »
Le silence avait gardé sa place dans le petit cimetière derrière l'église. Dans cet espace de paix, les dernières paroles du Pépé remontaient.
« C'est le seul combat qui compte. »
Puis il se sentit là, devant cette nouvelle bataille. Le combat était de taille et l'adversaire insoutenable. Mais comment laisser étouffer son rêve, le seul qui lui tienne à cœur ? Soudain, lui vint une idée.
Tout d'un coup,
il vit exactement de quelle manière il allait leur apprendre sa folie. Courant ici et là dans le paisible cimetière, il cria en sautant et en frappant des mains comme s'il eût déjà remporté la victoire.
« Pépé Antoine, merci! Tu m'aideras !»
Immédiatement, Petit-Jean s'était remis au travail. Il avait mis cette fois-ci moins de temps à trouver le bois qu'il le fallait pour tailler à nouveau un arc et des flèches. Son père était revenu et, surpris de voir son fils toujours avec son arc et ses flèches, l'avait simplement regardé. Petit-Jean avait décidé d'organiser un grand concours de tir à l'arc pour tout le village. Le gagnant serait proclamé roi ou reine, avec privilège et pouvoir pendant toute une semaine. Assuré qu'il allait gagner, il pourrait ainsi, au vu et au su de tous, dévoiler son rêve de roi et le réaliser sans contrainte aucune. Il trouvait son idée géniale. Comme il aurait voulu courir jusqu'à la montagne pointue pour le dire à la dame de la montagne. Il alla donc se placer tout près de la fontaine, au beau milieu de la place publique, la même où venait s'asseoir jadis Pépé Antoine. Puis se mit à crier.
« Ohé, ohé, attention !»
Comme il était difficile d'attirer l'attention, il monta debout sur le bord de la fontaine et brandit son arc et ses flèches, certain qu'on le verrait cette fois. Il se mit à crier de plus belle, enivré par la fierté de son idée. Le silence finit par s'étendre sur toute la place. S'empêchant les uns les autres de parler, les gens étaient curieux d'entendre ce que ce gamin avait à leur dire.
« Qui parmi vous aimerait être roi ou reine de tout le village ?»
Personne ne répondit. Les gens ne comprenaient pas et grimaçaient.
« Je répète, qui aimerait être roi ou reine du village ?»
Les gens le regardaient presque intimidés, riant un peu, plus ou moins sûrs de comprendre, et des mains se levèrent. Petit-Jean, content de voir une réponse positive, poursuivit.
« Bravo ! L'idée m'est venue d'organiser un grand concours, une sorte de compétition pour tout le village !»
La foule écoutait avec attention. Quelqu'un cria.
« Quel concours, Petit-Jean ?
Une compétition de tir à l'arc !»
Un mouvement de surprise anima la foule, puis quelqu'un lança
« Tu veux gagner, Petit-Jean ? Non, je veux combattre !»
La foule s'était détendue et riait. L'intérêt les avait piqués. Petit-Jean continua
« Celui ou celle d'entre nous qui remportera ce concours sera proclamé pendant toute une semaine roi ou reine du village avec privilège et plein pouvoir. »
L'idée plut à la foule, qui se mit à applaudir et à manifester déjà son enthousiasme.
« Vas-y, Petit-Jean, c'est pour quand le jour du combat ? Dans 10 jours !»
Encore une fois, les gens applaudirent. Un vent de fête soufflait déjà sur leur vie souvent monotone et sans joie. Levant une dernière fois les bras avec son arc et ses flèches, il leur dit
« Dans 10 jours à la clairière !»
Les gens se dispersèrent joyeusement en criant
« Vive le roi !
Vive la reine !»
Petit-Jean sauta du bord de la fontaine où il était monté. Pour lui, la partie était déjà gagnée. Il commencerait demain l'intensif entraînement. L'enthousiasme des premiers instants ne se démentit pas les jours suivants. Il est vrai que rares étaient les événements qui sortaient de l'ordinaire dans ce petit coin au bas des montagnes où il fallait toujours travailler. Le maire s'offrit lui-même pour la préparation des lieux. La clairière serait décorée comme au jour de grandes fêtes. Une sorte de kermesse, de rendez-vous de tout le monde se préparait. Déjà, des compétiteurs avaient sorti arc et flèches et on les retrouvait un peu partout à s'entraîner. Chacun se voyait déjà avec la couronne sur la tête et se payait les éventuels privilèges de la royauté. Mais l'intérêt suscité n'allait pas seul étonner Petit-Jean. Le nombre de tireurs à l'arc qui s'entraînaient et se présentaient n'était rien de moins que renversant. On eût dit que la compétition avait eu l'effet d'une véritable recension. Dans presque toutes les familles, quelqu'un tirait à l'arc. Il se rappelait bien avoir déjà vu un ou deux ou trois archers depuis son enfance, mais cette découverte le dépassait. Qui plus est, les femmes étaient à peine moins nombreuses que les hommes à s'inscrire,
et à s'exercer à cette discipline pourtant normalement rattachée à la chasse, activité traditionnellement réservée aux hommes. En peu de jours, le petit village s'était transformé. Sur la place publique, il n'était pas rare de voir passer quelqu'un avec son arc et son carquois rempli de flèches. Petit Jean croyait rêver. Il ne s'expliquait vraiment pas cet intérêt si marqué. Il commença à douter de sa victoire. Peut-être se cachait-il parmi eux quelqu'un qui le dépasserait. Son entraînement doubla d'efforts et d'ardeur. Déjà, les premiers tirs n'avaient pas atteint la cible. Plus que 3 jours séparaient le village du grand événement. Après un long entraînement, fatigué, Petit Jean rentrait de la clairière. Partout dans le village, des affiches avaient été placées par les gens eux-mêmes annonçant le grand jour. On ne parlait que de ce jour de fête. Le maire avait permis l'installation de stands d'amusement et de tables et comptoirs pour offrir les repas. Petit Jean s'apprêta à traverser la place publique lorsqu'il vit de loin, de l'autre côté de la petite église de Sant'Antonio, tout près d'une petite grange, la silhouette d'un archer qui s'entraînait. Doucement, il s'avança et se plaça pour ne pas être vu. C'était une jeune fille du village. Une longue tresse rousse lui descendait dans le dos. Petit Jean l'observa avec intérêt, puis, avec étonnement et stupeur, tirer et atteindre au plein centre la cible avec un style des plus parfaits. Il douta une fois de plus de sa victoire. Cette fille, aux cheveux de feu, allait-elle le battre? D'un pas ralenti, songeur, il traversa la place publique. Les gens se plaisaient à lui rappeler les 3 jours qu'il restait avant la grande compétition. Certains le saluaient déjà comme roi, tandis que d'autres lui rappelaient l'existence de tous ces tireurs de flèches. Ce jour-là, il regretta presque son idée de génie.